Le point infini de la charge mentale. Dans cette partie, vous allez agir sur le poids le plus transversal de votre existence, la charge mentale. Car si votre bonheur est caché dans votre cerveau, il est bien souvent recouvert par une charge mentale qui fonctionne alors comme un camouflage. Dans la plupart des cas, la charge mentale est à l'origine de vos peurs, de vos angoisses, de vos anxiétés et de vos colères. Il est essentiel que vous puissiez la comprendre pour mieux la réduire. Sun Tzu, le célèbre général chinois, a écrit dans l'Art de la guerre, en 500 avant Jésus-Christ, une phrase qui dit ceci. « Le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner 100 victoires dans 100 batailles, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. » C'est exactement ce que vous allez faire. Mettre en place une méthode qui abattra la charge mentale sans même devoir la combattre. Qu'est-ce qui vous définit ? Nous sommes en 2010. Je me trouve à l'autre bout du monde, au Chili, sur un bateau de croisière. Le drapeau est allemand, les passagers sont français, le capitaine est italien et le staff doit réunir à lui seul une quinzaine d'autres nationalités. Nous longeons les côtes chiliennes où nous avons passé une semaine de port en port pour faire route vers le nord, direction le Pérou. Je fais partie des artistes embarqués. Comme souvent, les corps de métier forment des groupes naturels à bord. Nous avons les mêmes contraintes, les mêmes horaires et les mêmes buts. Nous pouvons vivre au même rythme et nous soutenir quand c'est nécessaire. Je passe beaucoup de temps avec Edison Puyas, un musicien équatorien à l'humour hilarant qui joue de la musique avec tout. Je dois avouer que je suis bien content qu'Edison m'accompagne dans la plupart de mes balades à terre. L'espagnol est sa langue natale, et manger chez l'habitant contre quelques pesos, c'est tout à fait courant là-bas, est plus intéressant culturellement lorsque quelqu'un maîtrise la langue. Rassurant aussi pour changer ses pesos dans la rue à un taux plus avantageux que ce que me propose ma carte bleue. Là encore, c'est habituel pour les Chiliens de faire cela. Le temps que je vous raconte tout cela, nous venons de mouiller dans le port de Callao, qui nous relie directement avec Lima, la capitale du Pérou. Avant de débarquer, nous décidons avec Edison de prendre le déjeuner au buffet de notre navire, sur le pont supérieur. Nous aurons le ventre plein, ce qui est toujours mieux pour découvrir une ville plutôt que de perdre son temps à chercher à se nourrir en guise de première visite. Edison se met à me raconter, je cite, « son pire souvenir avec la France qui restera son meilleur souvenir ». Il me raconte qu'il est arrivé en France il y a plus de 10 ans. Fraîchement débarqué de l'Équateur, il a déjà un certain niveau de français. Il possède un visa qui lui permet de travailler et de rester sur le territoire. Il compte bien vivre de sa musique en France, en Europe et dans le monde pour acheter ensuite une belle maison en Équateur pour lui et sa famille. Il faut savoir que si le coût de la vie en Équateur est 42% moins élevé qu'en France, le pouvoir d'achat est quant à lui inférieur de 59%. Edison commence donc par faire de la musique dans les rues de Paris, apportant son art à la ville lumière, rémunéré selon le bon vouloir des passants. Mais un jour où Edison est accompagné d'autres musiciens, la police vient faire un contrôle d'identité. Aucune panique chez les artistes, ils ont tous leurs papiers et sont tous en règle. Le chef du groupe de policiers contrôle Edison et reste très dubitatif devant ses papiers, au point de l'emmener au poste. Mon ami équatorien n'est pas du genre à s'inquiéter. Mais sur le trajet, il se pose quelques questions sur l'attitude si fermée des policiers à son égard. Arrivé au commissariat, il est amené devant un bureau. L'ambiance ressemble à celle de tous les clichés que l'on peut avoir sur un interrogatoire. Le bureau en métal, la grosse lampe, la décoration défraîchie datant des années 70. Le plus gradé du groupe s'assied en face de lui, avec à ses côtés un jeune policier, sûrement cadet ou élève officier de police. Le capitaine prend un air condescendant et railleur. « Monsieur Puyas, est-ce que ce sont vos papiers, ça » dit-il en agitant le passeport. « Tout à fait, monsieur, » répond Edison. « Alors nous avons un problème, vous et moi. Ce sont de faux papiers. » Edison est abasourdi. C'est impossible. Le passeport lui a été remis par les autorités locales en Équateur. Comment une telle situation pourrait arriver ? « Je ne crois pas, monsieur. Il vient directement de mon pays. » Il n'est pas fait comme ici, mais je vous jure que c'est un vrai passeport, se défend Edison. Votre pays. C'est bien ça le problème. Il n'existe pas votre pays, répond le capitaine. Pendant un instant, Edison se demande si ce policier se moque de lui. Mais le ramener au commissariat aurait été une étrange façon de faire une blague. Monsieur, c'est un vrai pays. J'y suis né et j'ai habité là-bas toute ma vie, se justifie-t-il.
Arrêtez votre cinéma. Que vous tentiez le coup avec de faux papiers, je peux le comprendre. Mais soyez logique. L'Équateur n'est pas un pays, c'est une ligne. On n'habite pas sur une ligne. On n'habite pas sur le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne ou l'Équateur.
Pendant que le capitaine s'agace en expliquant pourquoi il pense qu'Edison se moque ouvertement de lui, le jeune policier souffle quelques mots dans l'oreille de son supérieur. Edison ne peut pas entendre, mais il n'est pas difficile d'imaginer qu'il venait de lui expliquer qu'en plus de la ligne de l'Équateur, il existait un véritable pays frontalier du Pérou, l'Équateur. Le capitaine changea d'air, eut l'air un peu embêté et tendit le passeport à Edison en concluant avec cette phrase magique.
« Bon, vous pouvez y aller, mais c'est la dernière fois !»
J'explose de rire et risque de m'étouffer. Je vous rappelle qu'Edison et moi sommes en train de déjeuner sur le bateau. Je dis à Edison de m'attendre quelques minutes, le temps pour moi de foncer jusqu'à ma cabine, d'y prendre mon ordinateur portable et de le remonter. Je me remets face à Edison et je lui demande de me raconter de nouveau son histoire en détail pour la noter. Elle est incroyable et j'adore noter ces pépites de vie, dignes parfois d'un film ou d'une série. Il ne se fait pas prier pour me la raconter de nouveau et je rentre tout ça dans mon précieux disque dur. Une discussion en amenant une autre, Edison est curieux de savoir ce qui se cache dans mes dossiers numériques. Je lui fais donc un tour du propriétaire. Mes idées pour faire un spectacle peut-être un jour au théâtre, mes formations, mes recherches, mes pensées, mes notes, mes souvenirs, mes théories, mes correspondances, toutes les photos de ma vie, et principalement ces dernières années, où j'ai travaillé dans une trentaine de pays différents par an. Enfin, nous concluons et passons la journée à Lima avec la ferme intention d'en profiter, car nous prenons l'avion le lendemain pour rentrer chez nous. Le lendemain matin, nous partons donc en direction de l'aéroport avec une partie des passagers. Edison fait le show en faisant rire comme d'habitude toutes les personnes présentes. À l'aéroport, nous nous disons au revoir, pour la dernière fois face à face mais sans le savoir. Edison profitait d'être en Amérique latine pour partir en Équateur à quelques 1100 km de là. Nous ne nous sommes pas revus depuis, mais nous correspondons encore. Edison a bien acheté sa merveilleuse maison en Équateur pour sa famille et lui. Je vais présenter ma valise à l'enregistrement, la dépose sur le tapis et récupère mon passeport et mon billet. Il ne faut pas trop traîner car nous sommes arrivés un peu tard à cause de la circulation. Mais j'ai à peine repris mon passeport qu'un douanier s'approche de moi pour me contrôler. Avec le nombre de voyages que je fais, cela m'est déjà arrivé et ça ne m'inquiète pas du tout. Je lui tends mon passeport. Il me demande dans un anglais approximatif ce que je fais là, où je vais, etc. Il feuillette le passeport et me demande de le suivre pour une fouille. À ce moment précis, je pense savoir ce qu'il s'est passé. Certes, je voyage dans beaucoup de pays pour le travail, mais je n'y reste que sur des périodes pouvant aller de 24 heures à 15 jours maximum. Mes clients ne m'offrent pas des vacances. Aussi, mon passeport atteste que son propriétaire vient de passer 24 heures au Pérou, une semaine au Chili, mais juste avant, 48 heures au Qatar, 5 jours à Amsterdam, 2 semaines en Inde, 3 jours en Égypte, etc. Si vous voulez avoir l'air louche, il n'y a pas mieux. Je prends conscience de ça en marchant et je me dis qu'il serait encore plus louche d'essayer de l'expliquer alors que nos anglais respectifs ne sont pas en grande forme. Nous arrivons dans une petite pièce rectangulaire, grise, avec pour seul matériel une grande table en inox. Les douaniers ont amené avec eux ma valise destinée à la soute en la récupérant directement sur le tapis. Ils la posent au milieu de la pièce et me demandent de mettre à côté mon bagage cabine. Ils me font comprendre qu'il faut que j'ouvre tout. J'ai déjà vécu ce genre de contrôle et je sais d'expérience qu'il faut être souple, souriant et surtout ne pas leur rappeler que l'on est pressé. Et pourtant, je le suis. Je m'exécute et ouvre donc l'ensemble de mes bagages. Je sors mon ordinateur de ma valise cabine ainsi que mes disques durs de sauvegarde. Dans ce genre de contrôle, on vous demande d'allumer tous vos appareils électroniques afin de prouver que ça ne serait pas autre chose de déguisé. Une coque vide pour cacher des objets ou du matériel terroriste. J'ai l'habitude, donc j'allume directement, l'écran tourné vers les douaniers et je tape mon mot de passe pour qu'ils voient que c'est bien un ordinateur et des disques durs normaux. J'en profite aussi pour sortir et montrer environ 300 euros d'espèces que j'ai toujours avec moi en cas de pépin. Quand on travaille à l'étranger, il vaut mieux prévoir. Quand on a un peu de cash sur soi, il est plus judicieux de le montrer avant qu'il ne tombe dessus. Un peu caché, c'est suspect. Le but est de toujours montrer sa bonne foi. Pendant ce temps, les autres fouillent entièrement mes valises. Une fois l'ordinateur vérifié, je range tous les éléments informatiques dans leurs housses respectives. Mais lorsque je vous dis que les valises sont fouillées entièrement, c'est au sens propre. J'ai par exemple un carnet à dessin de 70 feuilles épaisses. Chacune des feuilles se voit passer la languette pour le test anti-explosif et anti-drogue. Les pages épaisses pourraient être imprégnées d'une substance particulière. Tout est étalé au sol et sur la table de métal. Nous sommes presque à la fin et on m'explique que je dois me tourner face au mur pour une fouille tactile. Rassurez-vous, je n'ai pas eu à enlever mes vêtements. Je suis juste surpris que l'on n'ait pas commencé par cela, mais vous savez, dans ce genre de situation, son avis, on le garde pour soi. Je garde donc mon humeur à l'état neutre et je me tourne. La fouille est aussi rapide que respectueuse et on m'invite à ranger mes valises. Je ne me fais pas prier car la fin de l'embarquement est dans 20 minutes. Il faut en plus que je repasse au comptoir pour donner mon bagage en soute. Ils ont été prévenus et l'accepteront malgré la fin de l'enregistrement des valises. Je me transforme en tornade et range tout dans le bagage à destination de la soute tant bien que mal. J'y mets également à la fin l'ordinateur, les disques durs, le cache et je ferme le tout. Essayer de remettre ça dans mon bagage cabine, qui s'avère être un gros sac à dos, serait trop long. J'entame mon marathon avec un arrêt à l'enregistrement, un autre à la sécurité, et me voici déjà en train de m'installer à ma place, prêt à m'envoler vers Paris. Il n'existe pas de vol direct, j'aurai donc une escale à Madrid, ce qui portera mon voyage à 16 heures environ. J'arrive enfin chez moi après 16 heures de vol, 1 heure d'attente de mes bagages et 1h30 de transport en commun. Tant que je suis dans le mouvement, je défais entièrement mes bagages et lance mes lessives. C'est la meilleure chose à faire lorsque vous venez de faire un long trajet. J'ouvre ma valise, je sors les espèces pour les ranger, j'ouvre les housses de l'ordinateur et des disques durs et les pose sur le côté, je prends le linge sale pour le mettre dans la machine à laver. En sortant mes pantalons, j'embarque malgré moi le chargeur de l'ordinateur qui tombe sur le sol. À ce moment précis, le temps ralentit dans mon cerveau et en une seconde, je me mets à connecter 1000 choses entre elles. Avec le trajet, la batterie de l'ordinateur doit être morte. Je vais le recharger. Les housses de l'ordinateur et des disques de sauvegarde sont vides. Trop fatigué par le trajet, ça ne m'a pas choqué en les ouvrant quelques secondes avant. On m'a volé mon ordinateur et toutes les sauvegardes. Il y avait encore l'espèce, donc ça s'est fait avant que je range les billets avec les housses. Les douaniers ? Quand j'ai rangé les housses dans la valise, j'étais tellement pressé par le départ de mon vol que je n'ai pas fait attention si elles étaient anormalement légères. Quand ont-ils pu les prendre ? Mais bien sûr, pendant la fouille corporelle face au mur. J'avais trouvé ça étrange de le faire à la fin plutôt qu'au début. Ils ont donc agi à ce moment-là. C'était prémédité. Ils étaient donc tous complices. Pourquoi pas l'argent ? Parce qu'il était encore dans ma poche à ce moment-là. Mais pourquoi faire ? Tout est sous mot de passe. Je l'ai tapé devant eux pour faire preuve de bonne foi et montrer que je n'avais rien à cacher. Je crois que toutes ces pensées se sont bousculées en moins de 30 secondes dans ma tête. À la fin, je sais avec certitude que les douaniers de l'aéroport de Lima m'avaient fauché mon ordinateur et toutes mes données. Un gouffre s'ouvre alors sous mes pieds. Le matériel est une chose, mais l'intégralité de mon travail et de mes souvenirs est dedans. Et non, je n'ai pas de troisième disque dur de sauvegarde chez moi et les services de cloud n'étaient pas aussi répandus qu'aujourd'hui. S'enclenche la grande opération de récupération. 19 heures environ se sont écoulées depuis le vol de mes affaires. Le temps joue contre moi. Le décalage horaire aussi. Je commence par envoyer 3 mails. Le premier pour l'aéroport de Lima. J'y explique que j'ai perdu mon ordinateur, je décris les signes distinctifs et ce que j'ai fait à l'aéroport, sans accuser personne. Le deuxième pour la douane de l'aéroport de Lima. Afin de mettre toutes les chances de mon côté, je dis avoir oublié moi-même, dans la pièce de fouille, mon ordinateur. Je prends la faute pour moi afin de leur donner l'occasion de dire « oui ». Je mets bien sûr l'accent sur l'importance des données perdues. Le troisième auprès de mon directeur de croisière. Il n'est pas rentré en même temps que moi, car il voulait aller en forêt amazonienne voir les temples avant de rentrer à Londres. Il aura peut-être une piste pour le retrouver, sous réserve qu'il soit réveillé et qu'il ait une connexion. Parce qu'il faut comprendre que je suis prêt à le racheter, au prix du neuf, au marché noir. La seule chose qui m'importe, c'est de récupérer mes fichiers à tout prix. La douane ne me répond pas et l'aéroport m'a invité à appeler le service des objets trouvés, qui bien sûr n'ont rien trouvé. Entre-temps, je reçois un mail de mon directeur de croisière qui m'invite à contacter notre soutien local à Lima. Je le fais dans la foulée, lui explique le problème et lui promets une belle récompense si on le retrouve. Je lui offrais l'équivalent d'un mois de salaire là-bas, et pour un mec débrouillard comme lui, il est hors de question de passer à côté. Si lui ne peut pas le trouver au marché noir, alors personne ne le trouvera. Je pars me coucher là-dessus, avec une étrange nuit aussi reposante que fatigante. Le lendemain matin, je me remets au travail. Je commence par contacter l'ambassade de France à Lima et leur expose ma situation en expliquant toutes mes conclusions. Leur discours ne me rassure pas. On m'explique que je suis l'un des nombreux touristes à qui ce genre de choses arrive. Le peuple péruvien est précaire, même les douaniers, et les petites arnaques sont quotidiennes. Ils sont complètement fatalistes, pour eux, je ne retrouverai rien. Mais ils ne connaissent pas Javier, mon contact qui est sur le coup. Pour ne pas me sentir impuissant d'être à distance, j'attrape ma tablette et je me connecte au site eBay péruvien et au site des petites annonces locales. J'y cherche mon Mac. Il a la particularité d'avoir un clavier AZERTY, ce qui n'est pas courant pour eux qui tapent en QWERTY. Et il possède quelques rayures distinctives. L'idée est simple. Si je le trouve, je l'achète et je le fais livrer chez mon contact qui me le renverra. Je passe donc ma journée et ma soirée à actualiser ces sites et à étendre ma recherche sur Internet. Jour 2. Rien pour le moment. Jour 3. Je continue à passer les annonces au peigne fin et je reçois un appel de Javier depuis Lima. Il m'explique qu'il n'y a rien à faire, qu'il ne trouve aucune piste et qu'il lâche l'affaire. Cette annonce achève instantanément ma détermination. Si Javier lâche et passe donc à côté d'une telle somme d'argent, ce n'est pas bon signe du tout. Et mes recherches sur ma tablette ne donnent rien de plus satisfaisant. Le travail reprend, ma vie continue. J'ai des contrats, des obligations et je dois faire avec. Je commence à regarder ce qu'il va falloir que je fasse, que je réécrive, que je réinvente. Et je glisse le long du mur pour fondre en larmes. Il est 14 heures. Je suis en train de vivre la première grosse dépression de ma vie d'adulte, mais je ne le sais pas encore. Comme je tourne sur un système Apple pour mon téléphone, ma tablette et mon ordinateur, il y a trois choses que je n'ai pas perdues. Mes contacts, mon agenda, mes mails. Un couteau suisse qui peut permettre de m'en sortir. Je me sens comme David face à Goliath. La montagne de choses que je vais devoir faire me paraît insurmontable. Je sais par exemple que dans 2 jours, j'ai une conférence et que je n'ai plus aucun fichier. Il va falloir la réécrire entièrement, refaire les visuels, les sons, etc. Je me dis alors que pour y arriver, je ne dois regarder qu'au jour le jour et aviser. Peu importe les heures de sommeil que je dois sacrifier, je préparerai chaque jour ce qu'il me faut pour le lendemain, avec mon téléphone et ma tablette. Attention, nous sommes en 2010. Ma tablette est un iPad de première génération, ils sont sortis quelques mois à peine auparavant et ne sont pas aussi complets que les tablettes d'aujourd'hui. Il se passe quelques semaines où je surnage comme ça, gérant au mieux, me surprenant parfois à pleurer quand je cherche des fichiers qui n'existent plus ou quand je pense à certaines photos perdues. Le sujet est tabou et je ne supporte pas qu'on m'en parle. J'en viens à me fâcher avec les personnes qui me disent « Tu sais quoi ? Tu aurais dû faire une sauvegarde que tu aurais laissée chez toi. » Le conseil a posteriori, même quand il est extrêmement pertinent, n'aidera jamais à dépasser une situation. Cela n'aide pas la personne qui souffre et tout au mieux alimente l'ego du conseiller puisque son cerveau se complaît à se dire que lui n'aurait pas fait pareil. Et puis un jour, en utilisant l'ordinateur de ma compagne, je m'aperçois qu'il faut que j'achète un logiciel dont j'ai besoin et que je possédais avant. Il faut savoir que chez Apple, les logiciels que l'on achète en ligne sont achetés à vie. C'est-à-dire qu'en remettant un nouvel ordinateur sur mon compte client, je pouvais télécharger tous mes anciens logiciels sans les payer. Je ne le découvre pas à ce moment-là. Au contraire, je ne le sais que trop bien. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est à cet instant que je me suis dit « Je vais acheter un nouvel ordinateur ». Aussitôt dit, aussitôt parti à l'Apple Store le plus proche, et 2 heures après, je suis de retour en train de le configurer. J'ai un poids en moins dans la poitrine. Je n'ai plus de tristesse. Je n'ai envie que de faire et plus de regretter. C'est en allumant le nouvel ordinateur que je comprends que j'ai été en dépression. Que j'ai fait quelque chose que j'avais étudié et qui m'avait fasciné, le déni. Théorisé par Freud, le déni est un mécanisme de défense du cerveau qui consiste à ne pas prendre en compte une partie de la réalité. Un refus catégorique de voir la réalité telle qu'elle est. Dans les cas les plus graves, cela peut aller jusqu'au syndrome de Diogène. Ces syndromes interviennent toujours après un grand choc psychologique et dans ces cas précis, les personnes ne réclament aucune aide. Et pour cause, puisque la personne rejette cette partie de la réalité, pourquoi aurait-elle un quelconque problème à régler ? Il y a une leçon que j'ai pu tirer de cette expérience et je souhaite que cette histoire vous aide à la comprendre profondément. Dans ma réalité, voici ce qu'il s'est passé. Depuis des années, je parfais ma définition du bonheur. Je conceptualise l'échec et j'appréhende le succès. J'œuvre pour avoir une humeur égale, une souplesse cérébrale face aux événements. Je sépare l'extérieur, qui ne m'appartient pas, de l'intérieur, qui lui dépend de moi. Submergé par ce choc qui impliquait tant de choses et ne voulant pas céder à la colère, à la tristesse ou à la complainte, j'ai eu comme seul réflexe de refuser cette réalité. Au fond de moi, je pensais encore retrouver mon ordinateur. Je n'en avais pas fait le deuil et je ne pouvais donc pas accueillir la nouvelle situation ou trouver une nouvelle organisation le cas échéant. À force de ne pas me sentir atteint par les futilités et ce que l'on croit être des échecs, qui ne sont ni plus ni moins que des tentatives, je ne me suis pas autorisé à accueillir une véritable problématique. Le vivre et le comprendre m'ont été essentiels. J'ai pu découvrir que mon pire ennemi, après avoir atteint dans ma vie une vraie souplesse mentale, est le déni. Il ressemble à l'état de neutralité, mais cache des émotions qui existent même sans notre accord. Zoom. La dernière étape de la flexibilité mentale est donc d'accepter ce que l'on ressent, d'accepter que quelque chose soit difficile à vivre ou injuste, pour mieux se mettre en état de la surmonter. Ne confondez jamais le détachement rationnel avec le fait de nier ce que vous ressentez. Les émotions ne passeront jamais si vous ne prenez pas le temps de les regarder un minimum. Vous devez les respecter et ne jamais ignorer ces signaux forts envoyés par votre cerveau. Il sera ensuite plus simple de vous réaligner au neutre. L'ironie de toute cette histoire est comme un clin d'œil de fin de film. Vous souvenez-vous de mon dernier repas avec Edison Pouyas sur le navire ? Le moment où j'ai noté son histoire dans mon ordinateur ? Nous avions ensuite fait le tour de mes fichiers et de mes photos. La phrase que je lui ai dite à la fin était précisément la suivante. « Tu vois cet ordinateur ? C'est toute ma vie. Si je le paume, je suis plus rien. » Et moins de 24 heures plus tard, je me le faisais voler par des douaniers avec toutes les données. Un bien métaphorique rappel à l'ordre. Finalement, cette croyance erronée que mon cerveau avait prise pour vraie a été rudement mise à l'épreuve. Et une fois sorti du déni, j'ai pu constater que j'existais toujours et que j'étais toujours le même. Voici ce que vous devez savoir chaque jour, dans chaque situation. Vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas ce que vous possédez matériellement, vous n'êtes pas les schémas automatiques de votre cerveau. Vous êtes vos pensées et vos actes. Le reste n'est qu'informatif. Ne niez pas ces informations, mais n'en faites pas votre seule réalité.